Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette avec vous. Avec grand plaisir pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Je vous parle en deuxième partie d'émission d'un programme de prévention et de réadaptation cardiaque. C'est un tout nouveau concept qui vise spécifiquement à venir en aide à des personnes qui ont subi un accident cardiaque ou encore qui sont atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou qui ont de multiples facteurs de risque. J'ai lu un petit peu là-dessus. Il y a à peu près, au Canada, 1,6 million de personnes qui ont vécu ou qui vivent des séquelles d'une maladie du cœur. Et également, et là, les chiffres, on en parlera peut-être en deuxième partie de l'émission, les chiffres m'ont un petit peu rendu perplexe, à savoir que, au Canada, toujours 9 personnes sur 10, ça fait beaucoup de monde, ont au moins un facteur de risque associé à des maladies du cœur. Je parle ici d'embonpoint, obésité, stress, habitudes alimentaires, c'est-à-dire pas assez de fruits, pas assez de légumes, bon, bien sûr, le tabac. Donc, un programme, on le comprend assez rapidement, qui a tout à fait sa place, qui est justifié. On en parlera avec Mathieu Sirois, il est kinésiologue et directeur de Cardio Extra, qui est le nom de ce gym de prévention et de réadaptation cardiaque. Aussi, vous dire ou vous rappeler que très bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, dans quelques semaines, il y a des agriculteurs ici au Québec, chez nous, qui vont se mettre à s'activer dans nos champs, dans leurs champs, parce que ce sera le temps des semences, ce qui veut dire beaucoup de boulot, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue pour que nous, on puisse, soit pendant l'été ou à l'automne, pouvoir manger des fruits et des légumes. Bien sûr, il y a les producteurs laitiers hein, qui travaillent à l'année pour qu'on puisse consommer nos produits laitiers. Je le souligne parce que je trouve qu'on oublie ça facilement. L'agriculture, la production agricole, ce sont des métiers qui sont très exigeants, qui sont complexes aussi, de plus en plus complexes même, mais qui sont essentiels. Mais en même temps, c'est ça, essentiel, parce que c'est la base de ce qu'on retrouve dans notre assiette. Du moins, si on a envie de consommer local, si on a envie de manger varié aussi, pas trop d'aliments transformés. Et peut-être que pour se rappeler de tout ça, la meilleure façon, c'est de connaître leur travail, de connaître ces gens-là qui nous nourrissent et d'apprendre à aller à leur rencontre. Ben, Julie Aubé, mon invitée d'aujourd'hui, elle est nutritionniste. C'est ce qu'elle a fait et on peut prendre contact de ces rencontres-là à travers son livre « Prenez le champ ». C'est publié aux éditions de l'Homme. C'est tout nouveau, ça sortit lundi. Elle est avec nous. Je vous la présente. Allô, Julie Aubé.
Bonjour, Marianne.
Je dis, je vous présente, mais en même temps, on se connaît. Vous êtes venue à plusieurs reprises, entre autres, nous parler d'agrotourisme. Ce livre-là, c'est le fruit de réflexion, de passion. Ça fait longtemps que vous couvez ce livre-là. Il est sorti... En fait, le lancement était lundi, il est sorti... Il sort aujourd'hui.
Il sort aujourd'hui.
Donc, encore plus une primeur, je dirais, Julie. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir raconter ces histoires-là, à vouloir faire découvrir ces agriculteurs et ces producteurs?
J'ai trouvé l'introduction vraiment bien formulée. C'est un peu ça, la démarche que j'ai faite finalement, essayer de créer un rapprochement entre les mangeurs, nous les consommateurs, principalement les urbains, parce qu'on est un petit peu plus déconnectés de tout ce qui se passe dans les campagnes. Donc, créer ce rapprochement-là entre nous, les mangeurs, et les producteurs, ceux qui produisent nos aliments et qui le font bien, qui le font avec soin, avec passion. Ce livre-là, avant tout, c'est un hommage à leur travail.
Oui.
À leur travail qui travaillent fort puis qui nous donnent accès à des aliments variés de qualité et de proximité. Donc, c'est un hommage. Et puis, moi, comme nutritionniste gourmande, je travaille depuis longtemps à faire la promotion de la cuisine maison et du plaisir de bien manger. Mais j'ai le bien manger large quand même. Pour moi, la notion de bien manger, ça implique bien sûr les saveurs, bien sûr les éléments nutritifs, mais aussi d'où viennent les aliments, qui les ont produits, comment. Donc, ce type de questionnement-là vient avec ma vision élargie du bien manger. Et puis, je trouve qu'il n'y a rien de tel que l'agrotourisme pour réaliser tout ça, pour prendre contact avec ceux qui produisent nos aliments. Et j'adore d'écrire l'ouvrage en disant que c'est une belle invitation à associer des histoires, des visages et des paysages à nos aliments.
Ouais.
Et ce faisant, les aliments, après, ils sont plus anonymes. C'est plus un objet de consommation comme un autre qu'on trouve sur les tablettes des supermarchés. L'aliment prend un sens. Et puis, quand on le mange à la ferme, dans le cadre d'une activité agrotouristique, d'une sortie, on va découvrir tout son contexte, les gens derrière. On apprécie aussi beaucoup plus tout le travail que ça prend pour produire ces aliments-là, ce qu'on oublie parfois dans le quotidien qui va vite. Et ce qui est formidable, c'est qu'après, même les aliments, quand on les retrouve plus près de chez nous, à l'épicerie du coin, bien, on les rachète. Et puis, même là, ils continuent de garder cette valeur-là du contact qu'on a eu avec le lieu de production et les gens qui les ont produits.
Il y a un sens aussi qui se crée de savoir l'asperge que l'on retrouve, de quelle façon elle a été créée, par qui aussi, parce que c'est tout un créateur, le monsieur que vous décrivez, cet agriculteur producteur d'asperges ici au Québec. Donc, un sens pour nous, pour les enfants aussi, c'est une transmission qui est quand même assez importante à donner, à offrir à nos enfants.
Bien, tout à fait. Eux, ils apprennent justement d'où viennent. Moi, je trouve que bien, pour les gens de tous les âges, hein, quand on fait de l'agrotourisme, On enrichit notre culture agroalimentaire, que j'aime dire, mais pour les enfants, c'est particulier, puis surtout les enfants qui grandissent en ville, parce qu'ils n'ont pas nécessairement ce contact-là avec d'où viennent les aliments qui sont dans leur assiette à tous les jours. Et puis, il y a même un lien à faire avec le développement du goût des enfants. Des enfants, des fois, qui sont un peu difficiles, qui ne mangent pas de tout, bien, on dit souvent qu'il faut continuer de présenter les aliments à plus qu'une reprise, parce que ça prend plusieurs expositions pour avoir de la familiarisation aux nouveautés pour eux. Mais il n'y a rien de tel que des sorties à la ferme ou sur les lieux de production pour faire de la familiarisation. Et ce qui est génial avec l'agrotourisme, c'est que cette familiarisation-là se fait dans un contexte de plaisir. Ouais. Il n'y a pas d'apprentissage qui sont aussi efficaces, si on veut, que dans un... On n'est pas en train d'apprendre une leçon, d'être à l'école, de se faire dire des quoi faire. On est en train d'avoir du fun, de manger des bonnes choses. Et puis l'apprentissage, il vient par toute l'imprégnation de l'expérience, finalement.
Oui. Et l'agrotourisme, c'est même au-delà de la nutrition. Je le dis parce que vous êtes nutritionniste, mm-hmm. mais il y a tout un volet aussi éco-responsable parce que, bon, il y a moins de gaspillage, il y a moins de transformation, moins d'emballage aussi. Vous en parlez dans ce livre.
Oui, dans l'introduction, en fait, j'ai fait mes 10 bonnes raisons de faire de l'agrotourisme, donc c'est abordé. Il y a moins de transport pour les aliments aussi, parce que quand on fait de l'agrotourisme, on achète nos aliments en circuit court. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'achat en circuit court. Et puis, donc, on évite que les aliments se promènent d'un pays à l'autre, mais même d'une région à l'autre avec les entrepôts et tout ça. On les achète, on les ramène à la maison. Puis ça, c'est un autre beau lien à faire, c'est que ce qu'on ramène à la maison, c'est un paquet d'aliments frais peu transformés, ou si c'est transformé, c'est transformé artisanalement, donc et non pas industriellement. Et c'est la prémisse, c'est l'invitation par excellence à cuisiner maison par la suite, puis à transformer ces aliments-là nous-mêmes. Puis pour être en bonne forme puis en bonne santé, mon bien manger, il inclut aussi énormément, et on s'en est déjà parlé ici, la cuisine maison à partir d'ingrédients de base.
Bien manger, c'est aussi des aliments gourmands. Vous n'avez pas hésité à présenter des gens qui font du chocolat, la bière également, ou d'autres types d'alcool.
Absolument.
Ça fait partie aussi du plaisir et de la découverte pour vous.
Oh oui, absolument. Une alimentation variée, il n'y a pas d'interdit. Et tout fait partie de l'alimentation équilibrée. Après, c'est les notions de fréquence, de consommation, de modération, tout ça. Surtout si on fait quelques vignobles, quelques microbrasseries, évidemment, on se trouve un chauffeur désigné. Ça, c'est important. Mais ça fait tout à fait partie des belles découvertes gourmandes qu'on va faire au Québec avec grand plaisir.
Donc, 21 escapades partout, dans plusieurs régions.
Oui, 9 régions.
9 régions du Québec. Ce que j'ai apprécié, Julie, c'est qu'au départ de Prenez le champ, vous dites, ça se peut que je n'ai pas tout vu, ça se peut
Absolument.
Que je n'ai pas tout goûté. Prenez le loisir et aussi la curiosité de vous aussi faire vos découvertes, de vous arrêter, vous passer devant une ferme, bien, prenez le temps de s'arrêter. Est-ce qu'on peut faire ça partout, Julie?
Mais c'est un excellent point qui est soulevé. Déjà, ça me permet de dire que Prenez le champ, ce n'est pas un répertoire. C'est une collection de coups de cœur. Donc ça, c'est très, très important parce que d'un arrêt à l'autre qui sont suggérés dans l'ouvrage, vous allez croiser d'autres fermes, c'est certain, d'autres endroits pour vous arrêter. Et moi, je dis, arrêtez-vous-y, faites vos propres découvertes. Puis ma vision avec le livre, c'est que vos ouvrages soient remplis de post-it avec vos propres coups de cœur puis vos propres découvertes.
Oui.
Mais la question, c'était quoi?
Bien, la question, c'était de prendre le risque ou de prendre l'opportunité de s'arrêter. Mais est-ce qu'on peut? Parce que, bon, c'est vos coups de cœur, vous avez développé votre façon d'aller à la rencontre de ces gens-là. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués de le faire, de dire, OK, je vais me stationner là, puis je vais aller cogner. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça?
Bien, ça, c'est un bon point. Pas nécessairement partout, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas ouverts à l'agrotourisme, si on veut. C'est une sorte de vocation de décider d'ouvrir son chez-soi, sa ferme aux visiteurs. Donc, ceux qui sont ouverts aux touristes ont presque toujours page Facebook, site Internet, et c'est comme ça qu'on doit les joindre pour vérifier aussi s'ils sont ouverts au moment où nous, on passe. Parce que quand on parle d'agriculture, ça nous reconnecte aussi beaucoup à la saisonnalité des produits.
Ouais. Hein?
À l'épicerie, souvent, tout est là, tout le temps, en permanence. Mais dans la réalité, c'est pas le cas. Puis d'une saison à l'autre, ça va varier aussi. Comme la saison des fraises, ça commence pas la même semaine tout le temps. La saison des asperges, c'est pareil. Donc, un coup de fil ou vérifier la page Facebook des gens, bien là, on est en mesure de savoir les moments où ils sont ouverts pour nous accueillir. Mais sinon, on peut téléphoner, on peut demander aux agriculteurs, est-ce que vous seriez ouverts à ce qu'on fasse une visite? Mais il y en a certains que la réponse, ça sera non, et c'est correct comme ça. C'est chacun sa vocation.
Et d'ailleurs, dans les règles d'or de l'agrotourisme et du tourisme gourmand, c'est inscrit au point 3, c'est-à-dire de se réapproprier le temps. Parfois, c'est plus le temps des fraises, puis on peut pas y aller. Puis le temps du maïs, c'est pas encore le temps. Il faut apprendre aussi ça. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi de bien faire l'agrotourisme?
Moi, je trouve que ça revient beaucoup à la notion du respect. Parce que quand on parle de tourisme, des fois aussi, les gens y arrivent à des endroits, puis ils ont l'impression que tous les services doivent être là, puis qu'on va les entertainer, puis que c'est... Moi, je ramène souvent ça. Il y a plein de modèles. Il y en a que c'est des gens très, très organisés pour recevoir les touristes et qu'il y a plein de choses à faire puis que les gens sont surstimulés puis il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Puis il y a d'autres endroits où c'est plus simplement une exploitation agricole où est-ce qu'on peut... On apprend, on rencontre, on voit, mais c'est un peu plus à nous à créer notre expérience en amenant notre pique-nique ou en faisant une randonnée dans la forêt ou autour des champs, par exemple. Donc, il y a vraiment pas un modèle unique qui existe d'accueil agrotouristique. Mm-hmm. C'est multiple. C'est très, très varié. Puis je pense que ça fait partie aussi de la beauté de l'expérience parce que d'une ferme à l'autre ou d'un endroit gourmand à l'autre, on va vivre quelque chose de complètement différent. Mais ça demande un respect aussi parce qu'il va y avoir des consignes qui sont variables encore d'une place à l'autre. On peut arriver sur un endroit d'autocueillette de fraises ou de bleuets et puis qu'on nous dit, aujourd'hui, c'est tel rang qu'on cueille. Et puis, des fois, les gens, ils vont voir les fraises plus rouges puis plus grosses à gauche et puis ils vont avoir envie ou être tentés d'aller à gauche sans malice, mais juste pour vouloir les grosses fraises. Mais l'agriculteur, souvent, il y a une raison pour laquelle on cueille ce rang-là aujourd'hui et non pas l'autre. Donc, on n'est pas chez nous, on est en visite chez des gens. Donc, respecter les consignes qui nous sont données.
Sensibilisation aussi au gaspillage, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est en abondance, que ce soit dans un verger ou un champ, qu'on peut jeter la pomme une fois, une croquée de prise. Là. Et ça, encore là, c'est une belle sensibilisation pour les plus petits.
Oui.
Et de ramener qu'il y a le travail de quelqu'un derrière ça.
Oui, puis ça, c'est sans qu'on soit obligé de dire, tu vois, il y a quelqu'un qui travaille fort. On l'observe, on est sur un lieu de production, donc c'est vraiment intéressant. Puis sur le gaspillage, je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que à force de faire de l'agrotourisme, petit à petit, ces rencontres-là puis ces histoires-là qu'on associe à nos aliments, ça fait aussi qu'on leur accorde plus de valeur.
Oui.
Ces aliments-là qui sont plus anonymes et puis rendus à la maison, s'il y a une petite poque sur un légume ou on a un reste dans le fond du frigo, on s'organise pour les cuisiner puis on les mange quand même. On enlève la petite poque puis on lui rend honneur en cuisine parce qu'on a comme intégré finalement tout le travail qu'il y a derrière la production de ces aliments-là.
Et j'imagine aussi qui de mieux placé que ces agriculteurs pour nous donner des trucs de cuisine. C'est-à-dire que des fois, cuisiner le chou ou quel autre légume, on ne sait pas trop quoi faire, l'aubergine avec ça, ces gens-là, ils en ont toujours plein. Ils sont là aussi pour nous guider.
Puis ça fait partie des bonnes questions qu'on peut leur poser aussi. Si on s'achète un panier d'un légume qu'on connaît moins, l'agriculteur ou la personne qui est là pour guider les gens cette journée-là va se faire un plaisir de partager toutes sortes de trucs pour nous familiariser puis nous aider à les cuisiner à la maison après, certainement.
Je reviens à cet aspect d'hommage. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu un hommage, ces rencontres, mettre aussi en valeur leur travail. Il y a un aspect qui est très, très touchant dans votre livre, Julie, parce qu'il faut le dire, il y a de magnifiques photos qui sont parsemées. Des photos autant alléchantes parce qu'on voit les aliments, on voit aussi les recettes. Il y a une tarte au sucre qui a l'air vraiment très, très, très bonne. Mais en même temps, on voit le visage de ces gens-là. Ce qui m'a marqué, moi, souvent des couples, des parents et leurs enfants, des agriculteurs avec leurs aînés, leurs ancêtres. Est-ce que l'agriculture, la ferme, c'est une affaire de famille aussi?
Il y a toutes sortes de modèles, c'est très, très multiple. Il y a des gens qui ont, dans le fond, que c'est un transfert d'entreprise familiale, donc c'est dans la famille depuis plusieurs générations. Puis l'agriculteur de la tarte au sucre dont vous parliez, c'est même depuis l'arrivée de la colonisation au Québec. Là, ça fait 11 générations qui sont de génération en génération à la même ferme. Mais il y en a aussi que c'est des gens carrément qui ont eu d'autres carrières avant et puis que l'agriculture devient un changement de rythme de vie, devient un choix. Donc, il y a vraiment de tout, mais c'est vraiment important pour moi qu'il y ait beaucoup de visages parce que ce livre-là, avant même de prendre le champ et d'aller à leur rencontre chez eux, bien, on apprend à les connaître chez nous, à la maison, à travers les portraits. Puis un portrait sans voir les visages de ces gens-là, c'est pas tout à fait aussi complet que quand on a la chance d'associer déjà des visages.
Et ce qui ressort très, très fort, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de couples et d'amour, là, souvent des gens qui sont soit tombés en amour, bon, en travaillant sur la terre, mais aussi après, ont décidé de s'investir ensemble, et ça fait partie de leur famille, de leur couple. Ce qui se dégage, c'est l'engagement. Ce sont des gens extrêmement engagés dans ce qu'ils font.
Complètement, et je pense que ça prend ça. Parce que c'est une profession qui demande un engagement, parce que le champ, il est là, puis chaque jour, il évolue, puis il faut en prendre soin, il faut le voir aller. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut l'observer. Même chose avec un élevage, même chose avec des boissons dans des cuves en train de fermenter. Donc, c'est un engagement incroyable. C'est ce que je retiens aussi beaucoup, c'est leur passion à ces gens-là, parce que je ne pense pas qu'on peut avoir un tel engagement sans la passion qui vient avec. Puis ça en fait, d'eux, des porte-paroles extraordinaires pour l'alimentation de proximité, pour l'alimentation de qualité qu'ils produisent. Puis c'était un peu la prémisse aussi de Prenez le champ, c'est leur donner un micro à ces gens-là, parce qu'on dans notre siècle de foodie, on entend beaucoup parler des chefs, puis c'est formidable, je trouve ça vraiment intéressant. Mais je trouvais que les produits à la base qui sont au menu des restaurants de ces chefs-là, bien, il y a des humains extraordinaires derrière qui ont des choses à raconter, puis des philosophies inspirantes sur l'agriculture, sur l'alimentation. Puis Prenez le champ, c'est une tribune pour eux.
Oui, puis ce sont aussi, ça on a tendance à l'oublier, des entrepreneurs. Il y a des gens très créatifs, on le découvre aussi, des poètes, des artistes, mais en même temps, il y a une fibre entrepreneuriale et on ne peut qu'être fiers de ça ici au Québec. En terminant, parce que le temps file, Julie, comment la meilleure façon d'utiliser ce livre-là, le beau temps s'en vient, en fait, même aujourd'hui, on est choyé, il fait soleil, on va prendre la voiture, on va se promener partout en province, on a Prenez le champ avec nous en voiture, comment on peut bien l'utiliser?
Bien, je trouve que la meilleure façon, c'est commencer à le feuilleter à la maison avant de partir pour s'organiser un peu puis voir quelle escapade fonctionne avec le temps de l'année où est-ce qu'on est. Là. Si on va dans une escapade pour les asperges puis qu'on y va en mois d'octobre, il est trop tard. Ouais. Donc, se préparer un petit peu. Puis comme je disais tout à l'heure, parce que c'est très important, vérifier les pages Facebook, les sites Internet pour s'assurer que les gens soient ouverts ou téléphoner lorsqu'il faut réserver. Et puis après ça, ben il y a des cartes personnalisées qui précèdent chacune des 21 escapades de proximité. Donc, vous pouvez avoir une petite idée du circuit qui vous attend. Amenez la glacière, parce que si vous ne l'amenez pas, vous allez le regretter. Amenez l'ouvre-bouteille aussi pour le pique-nique en plein air, un coupe-vent, des bottes d'eau. Mais il y a un petit pense-bête de qu'est-ce qu'on a besoin pour être un agrotouriste averti dans l'introduction.
Prochaine étape, une application. Prenez le champ,
Julie. Ah, pourquoi pas?
Je nous le souhaite. Vous êtes nutritionniste.
En terminant, je vous offre, Marianne, un autocollant pour la voiture ou le vélo qui est marqué agrotouriste à bord. Donc, on a famille à bord, bébé à bord. Maintenant, on a agrotouriste à bord.
J'irai peut-être faire un petit tour dans mon patelin, Ferme-Neuve. Vous en parlez d'ailleurs avec les miettes d'Anicette. Ça m'a touchée, Julie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Mathieu Sirois.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à toi, merci à toi.
Kinésiologue, directeur de Cardio Extran, on parle de ce programme-là aujourd'hui, un programme de réadaptation en santé cardiaque. C'est venu de où, ce projet-là, qui est tout nouveau? C'est votre idée, je pense,
oui,
Mathieu.
Oui, en fait, c'est quand même... C'est parti assez de loin. Tout d'abord, mon père, moi, a eu un événement cardiaque quand j'ai, tout jeune âge. Et suite à ça, j'ai eu le goût de commencer mon baccalauréat en kinésiologie. Par la suite, j'ai vu une problématique en ce sens. J'ai vu un besoin et j'avais un côté de firme entrepreneuriale aussi là, qui était assez développé. Donc, le tout mixé ensemble a fait en sorte que j'ai parti le premier programme de réadaptation cardiaque. Alors, en fait, le premier programme en partenariat en clinique physio-extra,
ouais.
Qui est déjà une clinique assez active.
Oui. Et en plus, venant de ce constat, je le dis en introduction, il y a un besoin parce que 1,6 million de Canadiens vivent avec des séquelles d'accidents cardiovasculaires, de maladies du cœur. Et en même temps, il y a beaucoup de Canadiens également qui ont des facteurs de risque. J'imagine que de voir ce besoin-là, il y avait un côté assez motivant aussi.
Tout à fait, tout à fait. On parle de 9 personnes sur 10 qui ont au moins un facteur de risque. C'est quand même assez
alarmant.
Et quand
on les regarde, on se sent visé, là, que ce soit le stress ou pas, même si on n'est pas fumeur, parce que souvent, on se dit « Ah, je suis fumeur, je suis foutu », mais pas nécessairement. C'est l'alimentation, c'est la sédentarité.
Tout à fait, puis il n'y a pas du tout... Puis on parle de chiffres aussi, là, et on dit, il y a une personne chaque 7 minutes qui a un événement cardiaque. Donc, si on ramène ça en journée, en semaine, en année, c'est quelque chose qui rajoute du poids aussi, là... À la problématique. Là.
Ouais. Quels sont les objectifs de Cardio Extra?
Les objectifs de Cardio Extra, en fait, c'est donner un service qui est complet. Donc, on a misé beaucoup sur un service qui est interdisciplinaire, sur un accès à un service en activité physique adaptée avec des kinésiologues, un accès à un service avec des ergothérapeutes qui sont vraiment focusés sur la gestion de stress et gestion d'anxiété parce qu'on sait qu'une personne suivant un événement cardiaque, il y a tout un volet de santé psychologique. Donc, on parle de réactivation psychologique, réactivation physique. Bien entendu, on a un cardiologue qui est actif avec nous dans le programme. Donc, donc les médecins sont assez impliqués. Et évidemment, mais il y a la portion nutritionniste là, qui a un besoin là, qui est fondamental.
Et j'imagine aussi un souci ou une sensibilisation aux habitudes de vie. Si un fumeur qui arrive chez vous suite à un accident cardiovasculaire, peut-être vous allez tenter de l'aider à cesser de fumer.
Tout à fait. Tout à fait. On a des ressources rendues là, à la façon aussi que ça fonctionne en clinique. Donc, le patient va se présenter. Par rapport à ça, on a une évaluation. Et si on voit que le patient a un besoin, parce que c'est sûr que la cigarette, c'est un facteur de risque en étant fumeur, si on voit un besoin dans ce sens, on va lui donner les ressources pour se prendre en main et de s'aider lui-même. Et on va tout mettre en œuvre là, pour l'aider.
Ouais. Ce que je trouve intéressant de la façon dont j'ai compris le concept derrière Cardio Extra, c'est qu'il y a un volet de prévention et un volet de réadaptation. C'est bien
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un volet de prévention qui est évidemment pour des patients qui ont multiples facteurs de risque. On peut de 1 à 2 à 3 à 4 à 5 facteurs de risque qui est le volet préventif pour la seule et seule raison que ce patient-là ou la patiente n'a pas eu d'événement. Donc, on parle d'infarctus du myocarde, d'autres maladies cardiovasculaires, valvulopathie. En fait, il y a un volet beaucoup plus préventif où la prise en charge est pour ralentir les symptômes ou même couper totalement. Et il y a un volet de réactivation vraiment physique. Où là, on parle de réadaptation cardiaque.
Suite à un événement cardiaque.
Toujours suite à un événement cardiaque, oui.
Est-ce que les gens sont référés par leur médecin, Mathieu?
Les gens sont toujours référés. En fait, il y a deux volets. De la façon que ça fonctionne, il y a deux volets. Il y a un volet qui est spécifiquement pour le retour à l'emploi, donc on appelle le PrEPEC. Donc, c'est un programme de retour à l'emploi post-événement cardiaque. Et il y a un autre volet où les médecins réfèrent eux-mêmes les patients en demande. Donc, les patients après ou avant là, une maladie cardiovasculaire, évidemment.
Le portrait de la clientèle, on l'entend de plus en plus. Vous avez nommé quelques types de maladies cardiovasculaires. Plus des hommes, plus des femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose à dénoter par rapport à ça?
Je vous dirais que c'est assez partagé. C'est assez partagé. C'est sûr que si on se fie à un groupe d'âge, là, on est en moyenne entre 35 et 65 ans. C'est sûr que les personnes âgées sont un petit peu plus à risque. Par contre, au niveau du sexe, une tangente un petit peu plus... Là, si on parle de la femme ménopausée, par contre... Là, oui, il y a un facteur qui est plus élevé là, chez la femme. Oui.
Vous parliez de retour à l'emploi. J'imagine qu'une personne qui a vécu un événement cardiaque, c'est son grand souci de réintégrer la société, de pouvoir encore avoir un apport et avoir un mode de vie actif. Comment vous travaillez à ce que ça soit possible?
Je trouve la question super intéressante parce que on parle beaucoup du programme en clinique, mais l'offre du programme en clinique, en fait, c'est pour aller extérieur à la clinique aussi. Donc, le but, oui, c'est il y a un but actif en clinique, mais il y a un service qui est offert en suivi continu. Donc, le but, c'est exactement comme vous dites, de sensibiliser le patient, la personne, à des bonnes habitudes de vie. Donc, reprendre ses sports, reprendre son mode de vie, mais de façon adaptée.
Oui.
Donc, c'est ce qu'on veut faire aussi en clinique.
Qui paye pour ça? Ça, c'est la grande question.
Oui, c'est la grande question. En fait, il y a deux volets. Si on parle du prépay, comme j'ai mentionné tantôt, donc c'est les compagnies d'assurance, donc les patients qui ont des assurances collectives ou la compagnie d'assurance est prête à payer pour un retour à l'emploi qui est sécuritaire, plus rapide. Évidemment, là, si on parle d'assurance personnelle, le patient, il a droit à ça, évidemment. Donc ça, c'est tout le personnel, donc moi et quelqu'un d'autre en clinique qui va s'occuper de ça. Donc on aide le patient aussi à cette recherche-là. On est en processus d'essayer donc d'intégrer des fondations qui nous aideraient au sujet de la couverture de frais des patients. Et si on parle de l'ECG en tant que tel, donc l'électrocardiogramme à l'effort, de l'évaluation en tant que telle qui est faite en clinique, qui peut se faire en clinique, donc c'est une partie là, régie de l'assurance maladie du Québec là, qui est payée par la RAMQ.
Quand même. Mais ça sera en développement.
Toujours.
Je veux revenir, le temps file rapidement, mais à la réintégration, que ce soit à l'emploi. Vous avez parlé aussi au sport, à l'activité physique. On le sait, c'est un déterminant très important. Quel type d'activité on peut faire lorsqu'on se remet d'un événement cardiaque?
Quel type d'activité? Ça, c'est une très bonne question aussi. C'est beaucoup par palier. C'est-à-dire que si on prend le début, donc à partir de l'évaluation, parce que c'est toujours à partir de l'évaluation, on va voir donc l'intensité spécifique d'un patient avec qui on va travailler en clinique. Par la suite, il y a des sports conseillés, mais c'est plus de l'intensité du sport.
Ah, voilà.
Donc, c'est ça la clé. Donc, la clé est dans l'intensité. Donc, exemple, si de focusser sur ses symptômes. Donc, le patient doit se rappeler, il connaît ses symptômes, doit-on interagir avec ça? Donc, si on a un nageur, en ce moment-là, c'est d'y aller avec la nage et toujours en lien avec le cardiologue et le kinésiologue qui suit le patient.
S'entourer des experts, je pense que c'est la clé. On peut le faire chez Cardio Extra. Vous avez une page Facebook,
oui.
Mathieu,
oui.
Et un site web?
Il y a un site web directement sur la page, le site web de Physio Extra.
Très bien. Ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer, Mathieu Sirois.
Merci à vous.
C'est un très beau projet. Bien sûr, avec l'aide aussi de Physio Extra. Mais je pense qu'on va se reparler parce que c'est une très belle initiative. Merci.
Merci beaucoup de l'accueil.
Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console, c'est Marianne Paquette au micro. Nous, on se rencontre demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.